Vous écoutez, on lit pour vous.
Lien coupé avec les petits-enfants, un tabou à briser, un texte de Frédéric Charret, paru le 20 novembre 2024 dans Virage. Maman, dis-moi que tu seras là pour la petite. Oui, toujours, lui a répondu Suzanne, nom fictif, impuissante face à la maladie qui était sur le point de lui voler sa fille. À ce moment, affligée par la tristesse, la grand-mère n'avait aucune idée du calvaire qui l'attendait. Pendant les mois qui ont suivi le décès de sa fille, tout portait à croire que Suzanne allait pouvoir tenir sa promesse. Après tout, son gendre et elle formaient une équipe soudée. Nous avions toujours été proches, se rappelle Suzanne. Là, on se soutenait mutuellement, on s'entraidait. Mais dans la vie, les choses marchent parfois très bien jusqu'au moment où elles ne marchent plus du tout. Sans trop s'expliquer, le papa de la fillette a commencé à couper les ponts, reportant ou annulant des visites chez grand-maman. Chaque fois, le prétexte est nébuleux ou tiré par les cheveux. Ça allait à la dérive. Je ne voyais à peu près plus la petite, raconte Suzanne. C'est alors qu'elle a appris que son ancien gendre souhaitait refaire sa vie avec une nouvelle flamme. C'est normal qu'il retrouve l'amour, s'est dit Suzanne. Mais pourquoi ça lui coûterait, à elle, cet enfant qu'elle aime tant? Désemparée, Suzanne fait ses recherches et tombe sur la page web de l'Association des grands-parents du Québec, ADGPQ. En pleurs, elle compose le numéro qu'elle y trouve et raconte son histoire. Une grande détresse. Suzanne est loin d'être la seule. L'ADGPQ dit recevoir environ 1000 messages par année de grands-parents confrontés à une rupture ou une rupture possible du lien avec un ou plusieurs petits-enfants. C'est une grande détresse que l'on constate tous les jours, se désole Viviane Arsenault, présidente de cet organisme fondé en 1990. Que peut bien pousser certains parents à couper entièrement le cordon qui relie leur progéniture à leurs grands-parents? Chaque cas est unique, comme l'illustre celui vécu par Suzanne, mais certaines raisons sont plus fréquemment évoquées que d'autres. Parfois, c'est l'arrivée d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe qui, pour protéger le cocon conjugal naissant, exige de faire table rase du passé, sacrifiant au passage la famille élargie. D'autres fois, c'est la résurgence de problèmes familiaux développés dans l'adolescence, exacerbés par la rancune et la mauvaise communication ou l'éclatement de conflits reliés à l'argent qui peuvent parfois s'apparenter à du chantage. C'est sans compter des raisons tristement légitimes, comme de mauvais traitements physiques ou moraux. Quoi qu'il en soit, la privation de liens crée une souffrance incommensurable chez les grands-parents qui la vivent, ainsi que chez les bambins privés de papy et mamie, fait valoir Viviane Arsenault. Un petit enfant, c'est tes tripes, ton sang, illustre-t-elle, soulignant du même souffle que bien des personnes qui se tournent vers son association ont carrément l'impression de devoir faire le deuil d'une personne vivante. Ce fut justement le cas pour Suzanne. J'avais l'impression de vivre trois deuils. J'avais non seulement perdu ma fille au sens propre, mais aussi les relations avec ma petite fille et mon gendre. Recours judiciaire. Comme l'a découvert Suzanne, la rupture n'est pas une fatalité. En effet, les grands-parents qui se retrouvent dans une situation similaire ne sont pas sans recours, souligne Maître Luc Trudeau, un avocat familialiste dont la clientèle est quasi exclusivement composée de grands-parents. Avant de se tourner vers les tribunaux, Maître Trudeau commence toujours par envoyer une lettre invitatoire aux parents. Bien qu'elle puisse y ressembler, cette missive n'est pas une mise en demeure. Je leur explique la peine que ressentent les grands-parents et leur désir d'avoir des relations avec leurs petits-enfants, détaille l'avocat, qui est également conseiller juridique auprès de l'ADGPQ. Je les invite ensuite à communiquer avec moi pour tenter de trouver une solution. Si la réponse est favorable, les deux parties pourront négocier et signer une entente. Si la lettre est ignorée ou suscite une réponse défavorable, comme ce fut le cas pour Suzanne, les grands-parents peuvent se tourner vers la Cour en vertu de l'article 611 du Code civil du Québec. Celui-ci stipule que des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'enfant. Pour Maître Trudeau, la présence des grands-parents est justement dans l'intérêt de l'enfant. Après tout, le rôle de papy et de mamie est un complément à celui de papa et de maman, étant axé sur l'affection et l'accompagnement plutôt que sur l'éducation et la discipline. C'est sans compter l'importance de la transmission des traditions familiales et, soyons honnêtes, les coups de pouce financiers. Évitez les dérapages. Si les grands-parents obtiennent gain de cause, le tribunal pourra déterminer le nombre de visites par mois, la durée des séjours à Noël et à l'été, et même le nombre de visioconférences. J'insiste toujours pour que la Cour puisse régir les modalités de façon très claire, ajoute l'avocat, pour éviter des dérapages. Car dérapage, il peut y avoir, comme Suzanne l'a appris à ses dépens. Tout juste avant de se rendre devant le juge, son ancien gendre a accepté de signer une entente entérinée par le tribunal, assurant un contact soutenu entre Suzanne et sa petite-fille. Mais aussitôt signée, aussitôt ignorée. En effet, insatisfait du dénouement, le papa de la petite a continué de rendre les accès difficiles, voire infernaux, s'efforçant de démolir Suzanne, notamment auprès de la petite, pour qu'elle lâche prise. La tactique finira tout de même par échouer, non sans avoir causé quelques traumatismes, puisqu'un juge tranchera en faveur de la grand-maman, lui garantissant un accès à sa petite-fille. Et puis, pour protéger ses droits, elle a dorénavant la procédure d'outrage au tribunal dans sa manche. Vous écoutez « Lien coupé avec les petits-enfants, un tabou à briser », un texte de Frédéric Charret, paru le 20 novembre 2024 dans Virage. Un processus simple, mais pénible. D'ordinaire, ce processus est beaucoup plus simple que ce que les gens pensent et que ce qu'a vécu Suzanne, insiste Maître Trudeau, surtout lorsque la lettre invitatoire permet d'éviter de se tourner vers la Cour. Et même lorsqu'il faut saisir le tribunal, la cause est bien souvent entendue en moins d'un an. Malgré sa simplicité relative, le processus est très dur à vivre, concède Viviane Arsenault, ajoutant que certains grands-parents se privent d'utiliser des moyens juridiques parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à leur propre enfant. Cela peut être un choix déchirant. Mais on ne va pas devant un juge contre nos enfants, mais bien pour nos petits-enfants, nuance la présidente de l'ADGPQ. Vaincre la honte. Et puis, il y a la honte, celle qui paralyse, qui réduit au silence, celle qui découle du sentiment d'échec, du regard des autres, du préjugé qui veut qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. D'où l'importance de briser le tabou et de dire « vous n'êtes pas seul » à chaque grand-parent qui vit cette situation. Je les invite à devenir membres de l'ADGPQ pour qu'ils puissent venir chercher du soutien dans nos cafés-rencontres qui sont des groupes d'entraide. Et entendre les conférences juridiques de Maître Trudeau, plaide Mme Arsenault. Le choix de judiciariser ou non le différend est une décision personnelle, insiste Suzanne. C'est intimidant, surtout qu'on est déjà vulnérable, dit-elle au sujet de l'impact d'une telle procédure. Mais pour sa part, elle ne regrette rien, même si cela lui a siphonné énormément d'énergie et coûté des milliers de dollars. Il n'y avait rien pour m'arrêter. Aujourd'hui, Suzanne qualifie sa relation avec sa petite-fille de forte et de précieuse. Et chaque visite, chèrement acquise, lui permet d'affirmer avec conviction qu'elle tient enfin la dernière promesse faite à sa fille. Le consentement des petits-enfants. Le Code civil du Québec stipule que le tribunal doit absolument respecter la volonté des petits-enfants de 14 ans ou plus. Cela veut dire qu'ils ont le droit de décider de ne plus voir leurs grands-parents, même si un jugement leur accorde des droits de les contacter et de maintenir une relation. En ce qui concerne les enfants de 10 à 13 ans, le tribunal doit tenir compte de leur volonté d'avoir ou non des contacts avec leurs grands-parents. Dans l'intérêt de l'enfant. Avant 2022, l'article 611 du Code civil du Québec indiquait que les pères et mères ne peuvent, sans motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. Implicitement, la loi reconnaissait aux grands-parents le droit d'avoir accès à leurs petits-enfants et vice-versa. En raison de cette présomption favorable, le fardeau de la preuve reposait sur les épaules des parents qui devaient démontrer que les agissements des grands-parents justifiaient une rupture des liens. Mais des changements récents au Code civil ont renversé ce fardeau. L'article 611 stipule désormais que des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'enfant. Maître Luc Trudeau déplore la perte de la présomption favorable, expliquant que les tribunaux ont toujours priorisé l'intérêt des enfants même avant la reformulation de l'article 611. Le juriste rappelle que l'article 33 du Code civil stipule que les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits, en tenant compte notamment de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques. Est-ce que la pente est plus abrupte qu'avant, compte tenu du changement législatif? Il faudra attendre avant d'avoir une réponse définitive, la modification étant trop récente, mais certains dossiers pourraient être plus compliqués. Cela étant, la procédure demeure la même, fait valoir Maître Trudeau. Je comprends que le texte de loi a changé, mais dans les faits, le juge voudra connaître le motif qui fait que les parents refusent l'accès aux petits-enfants. Alors, ça ne va pas changer grand-chose dans la mécanique de la preuve. C'était « Lien coupé avec les petits-enfants, un tabou à briser », un texte de Frédéric Charest, paru le 20 novembre 2024 dans Virage.
À l'heure de la réconciliation, comment aborder l'histoire de la Nouvelle-France? Un texte de Martin Lavallée, paru le 21 janvier 2025 dans Le Devoir. La réconciliation avec les peuples autochtones s'est imposée comme une priorité au Québec et au Canada, soutenue par des initiatives symboliques et politiques. Pourtant, au-delà de ces gestes, comment opérer une véritable réconciliation qui donne aux Autochtones leur place dans le récit national? La réécriture de l'histoire apparaît comme une solution clé. mais soulève des défis complexes pour les sociétés concernées. Depuis le tournant des années 2000, l'heure est à la réconciliation avec les peuples autochtones au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. De la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en 2007, à la motion de reconnaissance des principes de la même déclaration adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 2019, en passant par la Commission de vérité et réconciliation du Canada de 2008 à 2015, il y a une véritable impulsion en faveur des Premières Nations. Désormais, une ville comme Montréal a sa propre stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones et une Journée nationale de la vérité et réconciliation a récemment été instituée au Canada le 30 septembre de chaque année. Le mois de juin est aussi désigné depuis 2009 comme le mois national de l'histoire autochtone au Canada. Sensibilisation. Les objectifs de ces diverses initiatives sont de sensibiliser les populations et, pour les institutions politiques, de faire amende honorable pour les sévices subis par certaines nations autochtones au cours de l'histoire. Au Canada, ces sévices ont eu lieu surtout par rapport à la loi sur les Indiens adoptée en 1876 et aux pensionnats qui visaient l'acculturation des peuples autochtones. Augmenter la visibilité et la présence des Premières Nations fait aussi partie des objectifs. Toutefois, au-delà des gestes avant tout politiques et symboliques, qu'en est-il concrètement? Comment procéder à une véritable réconciliation susceptible de panser les blessures infligées au cours de l'histoire et repartir sur de nouvelles bases? Dans son récent essai intitulé « Les Autochtones », la part effacée du Québec, l'anthropologue Gilles Bibeau lance une piste de solution. Ce dernier soutient que l'avenir des relations entre Autochtones et Québécois et le sens même de la nation du Québec dépendent intimement de ce que sera ou ne sera pas la réécriture en part égale de notre histoire. Bibeau envisage ainsi une histoire qui tient compte équitablement des versions québécoises et autochtones. Point de vue. Jusqu'à présent, il y a bien eu quelques essais isolés d'historiens occidentaux cherchant à raconter l'histoire du point de vue autochtone. Mais c'est avec une réelle volonté de s'inscrire dans ce processus de réconciliation que l'historien Patrice Groux a récemment publié un ouvrage, Pour en finir avec Dollard, qui correspond très bien à l'histoire en part égale, voulue par Bibeau. Groux y revisite le mythe de Dollard des Ormeaux et la place qui occupe les Autochtones. Dans ce récit, qui a longtemps marqué la mémoire collective canadienne, française et québécoise, Dollard et 16 Français, accompagnés d'une quarantaine de Hurons-Wendat et de 4 Anishinabés, se sont battus contre des Iroquois lors de la bataille du Kinojiwan, Longceau, en 1660. Même si l'expédition s'est soldée par une cuisante défaite des Alliés, Dollard a longtemps été célébré pour un acte de bravoure qui l'aurait conduit à se sacrifier et à sauver la Nouvelle-France. La réalité fut toutefois plus complexe que cela. Selon Groux, la mémoire de la bataille du Kinojiwan forme un cas d'espèce démontrant l'effacement des Autochtones du récit historique. Dans son ouvrage, il entreprend donc une relecture de ce récit pour redonner aux Premières Nations la place qui leur revient. Pour cet historien, le traitement de l'histoire fait aussi partie de la démarche de réconciliation. Cependant, comment s'y prendre? Est-ce aux historiens québécois d'entreprendre ce chantier, aux Autochtones eux-mêmes ou aux deux communautés? Sur quelles sources se fonder pour avoir le point de vue autochtone? C'était, à l'heure de la réconciliation, comment aborder l'histoire de la Nouvelle-France, un texte de Martin Lavallée paru le 21 janvier 2025 dans Le Devoir. «
détecter les allergies dans les selles du bébé et autres nouvelles scientifiques. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 février 2025 dans la presse. Des signes de troubles du système immunitaire, comme une allergie ou l'asthme, sont visibles dans les selles dès la première année de vie, révèlent des études californiennes. Cette découverte pourrait mener à des traitements précoces et de nouvelles méthodes de prévention. Nous avons identifié une signature des troubles auto-immunes dans le microbiote intestinal, explique la microbiologiste Susan Lynch de l'Université de Californie à San Francisco, qui présente ses travaux à Boston. Le microbiote intestinal est l'ensemble des microbes des intestins. On peut en déterminer la composition en analysant les selles. Cette signature est une molécule qui s'appelle 12,13 traits d'union dit homme. Quand elle est présente, cela signifie que les bactéries du microbiote ont été exposées à de l'inflammation, indique Mme Lynch. 12,13-diom dérègle plusieurs parties du système immunitaire, notamment les lymphocytes T qui reconnaissent les pathogènes. Le microbiote intestinal des bébés, qui plus tard vont développer de l'asthme, est radicalement différent de celui des autres bébés. Et ça semble dû à 12,13-diom. La chercheuse californienne a testé l'impact de cette molécule chez plusieurs souches de souris transgéniques utilisées pour des recherches sur l'asthme et aussi sur des bouillons de cellules humaines. Elle a découvert que l'exposition précoce d'un système immunitaire à 12,13-diom le rend non seulement hyper-réactif, provoquant de l'asthme, mais qu'il devient aussi moins efficace pour lutter contre des pathogènes qui, eux, sont dangereux. Susan Lynch ajoute « Nous sommes en train de regarder si les enfants qui font de l'asthme sont bel et bien plus vulnérables aux infections comme le rhume et la grippe. Ça n'avait jamais été vraiment examiné. On n'avait pas de raison de croire que c'était le cas. On savait, par contre, que les infections virales représentent 80% des causes de l'exacerbation de l'asthme. C'est donc compatible avec ce qu'on voit chez l'animal, poursuit Mme Lynch. Une analyse qu'elle a faite semble montrer que les infections au rhinovirus sont plus fréquentes chez les enfants ayant un microbiote intestinal qui augmente le risque d'asthme. Allergie aux arachides. Qu'en est-il des allergies alimentaires? Nous avons une étude en attente de publication sur le microbiote intestinal des enfants qui ont subi une thérapie de désensibilisation à l'allergie aux arachides par exposition graduelle au beurre d'arachide, dit-elle. Susan Lynch mène également une étude, toujours en cours, qui examine les effets d'un traitement de bébé doté d'un microbiote intestinal anormal lié à l'effet de 12,13-diom. Ces derniers ont reçu des pilules composées de sel aseptisé de bébé au microbiote intestinal normal. Il pourrait donc être possible de détecter de manière routinière ce microbiote intestinal problématique pour le traiter. Plusieurs études ont lié l'augmentation de la fréquence de l'asthme et des allergies alimentaires à un mode de vie aseptisé où les jeunes enfants ne sont plus exposés aux microbes bénins. Comment réconcilier cette hypothèse de l'hygiène avec les données sur le microbiote intestinal et l'asthme? Il se peut que l'exposition du bébé à certains microbes diminue paradoxalement l'inflammation dans les intestins, explique Mme Lynch. Il se peut aussi que notre alimentation, riche en aliments ultra-transformés, qui semblent causer de l'inflammation, soit le facteur prédominant dans ces changements de fréquence des troubles auto-immunes. Les premiers travaux sur le microbiote intestinal des bébés et l'asthme ont été réalisés il y a 9 ans. Après que les résultats impliquant le 12,13-diom eurent été répliqués par d'autres chercheurs, Mme Lynch a lancé, il y a 5 ans, ses recherches sur une utilisation clinique pour des traitements et pour la détection précoce. Proportion des asthmatiques dans la population adulte canadienne. Source Annals of Epidemiology. En 1994-95, 5%. En 2010-2011, 11%. D'autres nouvelles. Le risque de Pierre Durand et le réchauffement planétaire. Déterminer qui est plus à risque de faire des Pierre Durand prend une nouvelle urgence avec le réchauffement planétaire. La zone des États-Unis, appelée ceinture de la Pierre Durand, parce que ses températures chaudes favorisent la sudation et donc ce problème, s'agrandira de 56 % d'ici 2050. La quantité de certaines molécules, dont le zinc, le calcium et le magnésium dans l'urine, pourrait permettre de prédire le risque qu'une personne ait des Pierre Durand, montre une biochimiste de l'Université de Californie à Berkeley. Les insectes inconnus. Il faut en médiane 12 ans pour détecter 90 % des espèces d'insectes d'un site de 30 km² à 50 km², selon une analyse d'une entomologiste de l'Université d'État de l'Arizona. Cela signifie que les études d'impact environnemental devraient être beaucoup plus longues si elles veulent incorporer toutes les espèces potentiellement menacées. L'analyse est basée sur un réseau interuniversitaire d'observation écologique, NEON, qui compte 47 sites terrestres aux États-Unis. Des télescopes sur la face cachée. Pour beaucoup, la face cachée de la Lune est un album de Pink Floyd. Mais quand Joseph Silk y pense, il voit une occasion en or d'explorer l'univers à ses balbutiements. L'astronome de l'Université John Hopkins propose de recentrer la mission des bases lunaires prévues vers la construction sur la face cachée de notre satellite de télescopes qui seront protégés des ondes et de la lumière en provenance de la Terre. La détection de vie extraterrestre serait aussi facilitée. Il présente cette fin de semaine à la réunion de l'AAAS sa proposition détaillée en 2022 dans un livre « Back to the Moon ». C'était « Détecter les allergies dans les selles du bébé et autres nouvelles scientifiques », un texte de Mathieu Perrault paru le 14 février 2025 dans la presse.